France Musique.
Merci Philippe Cassard, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle note du traducteur.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission en forme de poire et d'oreille. Nous continuons notre parcours dans le bruit avec aujourd'hui en invité Sébastien Béranger, compositeur et responsable de la pédagogie et de la recherche à la Muse en Circuit, le centre national de la création musicale qui est si à Alfortville. Une occasion d'évoquer la place du bruit dans la pédagogie musicale actuelle. Et comme chaque samedi, un zoom sur une œuvre de la fin du XXe siècle et un son totalement désossé. Le cri du patchwork, thème numéro 7, épisode numéro 4, séquence numéro 1.
Eh, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Le bruit du temps. Les horloges et autres tic-tac qui mettent en son le temps. Au moins depuis le XIIIe siècle et l'invention des premières horloges à poids, créant un va-et-vient bruyant, ce fameux tic-tac, qui sera de plus en plus présent dans les horloges à balancier, à pendule, jusqu'aux montres goussées et bracelets. En fait, nous nous baladons avec un temps mis en bruit, le bruit du temps. Dans Dark Side of the Moon, Pink Floyd se joue des mécaniques et des sons de notre quotidien. Commençant dans un fatras d'horloges et réveils, le morceau Time se déroule en moment d'attente suspendu sur un inlassable balancement de tic-tac. Le bruit de l'horloge est ce qui cadre notre temps, notre rythme humain. Les titres des symphonies de Joseph Haydn étaient très souvent donnés a posteriori, par un éditeur ou selon ce qu'avait retenu le public lors de la création. La symphonie numéro 101, dite l'horloge, est caractérisée par le mouvement de balancier du deuxième mouvement, un tic-tac d'une mécanique bien huilée. C'est d'ailleurs pendant le XVIIIe siècle que la grande évolution de l'horlogerie va conduire progressivement à la construction d'appareils de mesure du temps, spécialement destinés aux musiciens. Après le chronomètre et l'écomètre, le métronome fait son entrée au début du XIXe siècle et devient l'outil préféré ou le plus détesté des musiciens. Ça dépend comment on le prend. lorsque le guitariste brésilien Baden Powell joue avec un métronome comme dans ce morceau, Choro para Metronome, il nous montre la manière qu'il a de tourner autour du tempo, se calant sur lui ou s'en détachant avant d'y revenir, comme tout bon guitariste de bossa nova qui se respecte. Jouer avec un métronome à la maison pour faire ses exercices, c'est respecter ce qu'il nous dit. Mais composer avec lui en tant qu'objet producteur de son, cela peut devenir un jeu rythmique des plus complexes. À propos de cette œuvre, Mauricio Kagel nous dit « Ma pièce pour piano, MM51, a pour thème la menace de peur et de danger inexprimés. Ne sont employés ici que des stéréotypes de la musique commerciale présente dans de nombreuses productions de l'industrie cinématographique. On remarquera également la présence d'un métronome au tempo 51. Le tic-tac régulier augmente cette tension rythmique indispensable à l'atmosphère musicale du morceau. Mais cet objet implacable déclenche chez le pianiste des émotions inattendues et sournoises lorsque, tel un spectre animé d'une volonté propre, il prend la position oblique. Mauricio Kagel demande en effet au pianiste de faire basculer le métronome pendant qu'il joue, créant alors un balancement très inégal. Si on maltraite un métronome, il ne devient plus un métronome et perd sa fonction de métronome. Alors prenons-le et déformons-le. Le compositeur hongrois István Lang superpose des métronomes à différentes vitesses pour mieux en faire des instruments de percussion. Et lorsqu'ils déforment leur son, il ne reste plus grand-chose du bruit du temps. En écrivant ce Capriccio Metronomico en 2000, István Lang avait sûrement en tête l'installation expérimentale que Gheorghe Ligeti fit en 1963 en Hollande. Le poème symphonique pour 100 métronomes. Lancés tous en même temps, les 100 métronomes tissent une toile moirée où l'on ne distingue plus leur tic-tac isolément. Ligeti nous dit « Dès que certains métronomes s'arrêtent, des schémas rythmiques liés à la densité du tic-tac se mettent en place, jusqu'à ce qu'il ne reste enfin qu'un unique métronome, au tic-tac lent, dont le rythme est alors parfaitement régulier. » Voici quatre moments choisis dans ce long processus d'érosion de 100 bruiteurs du temps.
Ce soir au bar de la gare, Igor, Agar et Noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté.
Une version méconnue du chef-d'œuvre métronomique de Bobby Lapointe, seul avec un piano et un métronome. Et l'on voit alors les difficultés du chanteur à se caler sur cet instrument qui peut devenir une vraie torture. Mais peut-être qu'il faisait exprès Bobby de se décaler, car quel plus grand plaisir que de contrer l'univocité de ce bruit du temps, implacable et fataliste. Jouons avec les horloges et les métronomes pour les rendre plus humains. Mais revenons à une fameuse histoire de tic-tac. Dans l'heure espagnole de Maurice Ravel, ce sont des horloges qui ouvrent la partition. Chacune est réglée métronomiquement pour répondre aux désirs du compositeur. Créer un halo polyrythmique, une superposition de temps rendu sonore par les tic-tac. Pour certains compositeurs, c'est une obsession. Michael Jarel, dans nombre de ses œuvres, fait référence à la mécanique de l'horloge, mais en y insérant des dérapages, des soubresauts qui annulent la sensation de tic-tac. Dans Rhizome, assonance 7B, pour piano et percussion, il termine cette œuvre faite de résonance, d'attente, de ponts suspendus par une boucle mécanique, une horloge parfaitement huilée au cliquetis précis. La composition comme travail d'orfèvre entre tic-tac et tactique.
Vous voyez qu'on y arrive. Hein ? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
Sébastien Béranger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc responsable de la pédagogie et de la recherche à la Muse en circuit. Mmh. Et je pense que la question du bruit, vous en parlez un peu tous les jours à la Muse.
Peut-être pas tous les jours, mais pas loin. Effectivement, la notion de bruit, c'est quelque chose qui est assez transversal, notamment chez les publics que je vis, c'est-à-dire beaucoup de collégiens, de lycéens. Dans l'environnement quotidien des adolescents, la notion de bruit est un peu partout. Donc on en parle énormément pour transformer peu à peu cette approche de bruit en une approche musicale.
Est-ce que justement ils arrivent à faire la différence entre le bruit et le musical avant que vous rentriez dans cette discussion-là ?
Honnêtement, non. C'est-à-dire que il y a un tel poids de la société et de l'environnement, notamment de l'environnement urbain, que pour eux, les catégories sont très très tranchées. Et ils ont du mal à analyser tout leur environnement, et notamment leur environnement sonore. Mmh. D'ailleurs, c'est assez marrant. Généralement, quand je commence à travailler, notamment en collège, je travaille beaucoup sur la notion de prise de son, forcément. Donc pour commencer une prise de son, le mieux c'est quand même d'enregistrer les sons et pas ce qu'il y a autour. Et donc je commence toujours par 30 secondes ou une minute d'écoute en silence. Et forcément ils se rendent compte que le silence n'existe pas, que même dans les meilleures conditions, il y a toujours un peu de ventilation, des gens qui parlent dans les couloirs, le prof d'à côté qui hurle, enfin bon voilà, des choses comme ça. Et ils se rendent compte qu'effectivement leur environnement est extrêmement bruyant. Donc, une fois qu'ils se sont rendus compte de ça, ils partent dans la réaction inverse, c'est-à-dire que pour eux, tout est bruit. Et il y a quand même tout un chemin pour bien leur montrer que le bruit et le son, c'est grosso modo la même chose, mais ça dépend comment on l'organise. Et c'est à partir du moment où le bruit est organisé qu'il devient son et que l'organisation fait que ça devient musique.
Vous êtes compositeur également, Sébastien Béranger, et vous êtes venu avec une première pièce, Écroulement, qu'on va écouter, dans laquelle justement on se rend compte que l'instrument peut devenir bruit en fonction de comment il est organisé et comment il est traité.
Oui.
Un extrait d'Écroulement de Sébastien Béranger avec Nathalie Chaud au violon, enregistré en 2008 par Radio France. Sébastien Béranger, quand on écoute une pièce comme celle-ci, on peut se poser la question, parce qu'on a un background maintenant de musicien et d'écoutant, où se place le bruit pour vous dans cette composition ?
J'ai toujours un problème avec le bruit, malgré le titre de l'émission, parce qu'effectivement, pour moi, à partir du moment où le bruit est organisé,
il n'est plus bruit,
il devient son, il est juste plus riche, différent, il propose une alternative, mais voilà, on n'est plus dans le domaine du bruit parce que effectivement, le contrôle fait que il devient poétique, il devient musical. Là, dans une pièce comme celle-ci, en fait, la notion de bruit apparaît grâce au mode de jeu, apparaît grâce au registre, apparaît grâce au coup d'archet. Et en fait, c'est plus un enrichissement quasi théâtral du jeu du violon qu'une approche solfégique, on va dire ça comme ça, stricto sensu. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma musique, et notamment dans cette pièce, je me suis beaucoup inspiré d'une vie antérieure très passée où j'étais trompettiste et où j'ai fait pas mal de... Je me suis forcément, comme tous les trompettistes, beaucoup intéressé au jazz. Et notamment à des figures très emblématiques comme Miles Davis, qui, pour être clair, avait un son relativement pourri.
Oui.
Une technique assez approximative, mais c'est justement dans cette approximation, dans le bruit des lèvres, de la respiration.
Ce sont les parasites, en fait.
Tous des parasites du son qui enrichissent le discours et le rendent effectivement très, très sensible. Alors, c'est pas du tout le cas chez Nathalie Chaud parce que c'est une violoniste absolument incroyable. Mais justement, elle maîtrise ça pour rajouter des éléments, on va dire, bruitistes. Faut bien garder un nom. Mais pour amener une touche de sensible au discours musical qui n'est pas que les notes sur une portée.
C'est-à-dire que tout d'un coup, le parasite prend du sens parce qu'il devient une épaisseur, en fait.
C'est ça. Et alors, l'idée, c'est pas d'être dans le bruit tout le temps, mais l'idée, c'est de réussir à trouver du contraste et à trouver une sorte d'émotivité grâce à des modes de jeu qui sont un peu différents chez l'instrument, quoi. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé, beaucoup inspiré, parce que effectivement, on arrive à dégager une émotion. Et le son écrasé n'est plus un son écrasé, mais il devient un cri. Enfin, il y a un côté quasi théâtral, en fait, de la pièce soliste, qui nous raconte une histoire, qui devient narrative grâce à ces modes de jeu.
Est-ce que vous faites écouter des pièces comme ça avec le jeune public, donc collégien, lycéen, pour avoir des sensations d'écoute ?
Alors, ça peut m'arriver. La seule chose, c'est que vu que j'ai la chance, en fait, de travailler dans un centre national de création musicale et qu'on a beaucoup de technologies à disposition, c'est même l'essence même de notre mission au départ.
Oui, parce que ce sont des studios qui sont dédiés justement à la création.
Oui, c'est vraiment des studios qui sont dédiés à la création. Donc en fait, j'ai quand même beaucoup de matériel à disposition. Et l'approche principale de la pédagogie que je mets en œuvre à la mise en circuit, c'est vraiment de se dire que les enfants, notamment, vont aborder la création musicale en mettant la main à la pâte. Donc, c'est eux qui enregistrent, c'est eux qui écoutent, c'est eux qui éditent les sons sur les ordinateurs, qui les transforment, qui les triturent. Et en fait, avec ce côté très ludique de la machine, j'arrive à les amener à avoir une écoute d'un objet sonore qu'ils n'entendent pas naturellement dans les musiques qu'ils écoutent d'habitude et autres. Et donc, une fois qu'ils ont eu le casque sur les oreilles, qu'ils ont écouté des sons inouïs comme ça pendant toute une journée, je peux leur faire écouter beaucoup, beaucoup de choses, notamment ma musique, mais pas que. Et là, du coup, ils comprennent très bien ce que veulent dire les compositeurs, comment ils utilisent la machine, comment ils utilisent l'électroacoustique, comment ils utilisent les instruments, l'objet sonore pour sortir d'une musique peut-être plus populaire et plus commerciale qu'ils peuvent écouter toute la journée.
Faire du bruit, en fait, c'est mieux l'écouter.
C'est exactement ça. Faire du bruit, c'est déjà distinguer ce qu'est le bruit jusqu'à ce qu'il disparaisse et redevienne musical.
court extrait de Baus Copie, donc une création de 2013 que vous avez réalisé, Sébastien Barranger, avec des lycéens, un lycée professionnel.
Oui.
J'aimerais demander, mais en combien de temps ils arrivent à créer une pièce qui a cette logique, cette structure?
Ben, ça, c'est une pièce qu'on a créée en à peu près 2 jours.
2 jours.
Ouais. En fait, on a travaillé une demi-journée en se baladant dans tout le lycée à rechercher des sons. Mm-hmm. Sachant que les bahuscopies sont un peu particulières parce qu'en fait, elles sont destinées notamment aux formations professionnelles. Et l'idée, c'est de proposer aux lycéens de valoriser leur formation professionnelle en enregistrant les sons des ateliers et autres. Donc là, on a entendu plein de petits bip-bip dans tous les sens parce qu'en fait, c'était des lycéens, des bacs pro travaillant sur les systèmes de télécommunication.
D'accord.
Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Une demi-journée comme ça. Une journée et demie où en fait les lycéens se retrouvent en binôme devant des ordinateurs à faire de la création électroacoustique, voilà, sur un séquenceur. Mmh. Ils travaillent toujours en binôme pour plein de raisons, et notamment pour une raison pédagogique très simple, c'est que ça oblige chaque élève à justifier ses choix par rapport à son voisin.
Oui, parce que c'est une question de choix. C'est-à-dire qu'on enregistre tel son, on sait un choix précis, et ensuite, de le déformer, on fait pas n'importe quoi.
Oui, et puis même de le choisir, parce que forcément, en une demi-journée, mine de rien, en se baladant dans le lycée, dans le BAHU, pour la bahuscopie, on a quand même une banque de sons qui est assez impressionnante. Donc, choisir les sons, les éditer, savoir comment on va les éditer, comment on va les transformer, comment on va les monter, ça demande un dialogue constant, et du coup, on est déjà dans une vraie approche musicale et formelle surtout. Et voilà, il y a cette question de l'écoute dont on parlait tout à l'heure, mais il y a aussi cette approche formelle du musical où voilà, c'est pas le musicien en tailleur qui attend que l'inspiration arrive, mais il y a tout un travail, forcément de construction, d'architecture, et ça c'est quelque chose qui moi me tient vraiment à cœur quand je transmets tout ça en pédagogie, c'est de montrer quelle est l'approche formelle du compositeur. Notamment du compositeur de musique contemporaine, classique. Donc voilà, il y a à peu près une journée et demie. Et au bout d'une journée et demie, chaque binôme a sa petite miniature électroacoustique qui peut durer entre 10 secondes et 40 secondes, une minute pour les plus grandes. Sachant que l'idée, c'est vraiment que musicalement, ça se tienne. C'est de vraiment avoir une miniature musicale et que voilà... Formellement, il y a un début, un milieu, une fin. Et pour ce projet, on avait un partenariat avec une structure d'art sur la ville de Bagneux qui nous permettait d'exposer, en fait, et de faire tourner en boucle l'exposition sonore des élèves. Donc, en fait, on a tout réuni sur une seule machine, moi aux commandes, et avec un travail un peu délicat pour les élèves, c'est-à-dire que toutes leurs miniatures étaient dans un pot commun, et ils devaient choisir dans quel ordre les monter, dans quel ordre les reprendre, dans quel ordre supprimer éventuellement certaines parties. Donc voilà, il y a tout un travail d'autocritique qui est assez passionnant pour obtenir ce résultat-là, même si là on n'en a entendu qu'un tout petit extrait, mais c'est vraiment dans cette approche du son, comment un son quotidien, le bip-bip des machines qui est là juste pour donner un signal, donc on est vraiment sur du bruit, en étant réécouté, réentendu, peut arriver à un discours musical, à un discours formel qui soit cohérent.
Je vous propose d'écouter une autre pièce de vous en tant que compositeur, c'est Eidetic Triborder, donc enregistrée en 2007 par le Gram à Lyon, et on va voir justement comment vous traitez à nouveau les instruments, là aussi avec de l'électronique.
Oui.
Thank you. un court extrait de Eidetic Triborder de Sébastien Béranger, interprété ici par le Nouvel Ensemble Moderne, dirigé par Lorraine Vaillancourt. Sébastien Béranger, Eidetic Triborder, ça impose presque le voyage, on va très loin là.
Oui, et puis l'idée c'était justement de travailler sur les frontières, la triple frontière du Triborder, et de travailler notamment sur trois approches esthétiques qui étaient forcément la musique contemporaine, la musique électroacoustique, et puis les musiques rock et jazz improvisées avec ces cuivres là qui hurlent généralement de manière très forte tout au long de la pièce, mais c'était la pêche du big band, mais qui dépasse la simple pêche pour arriver sur quelque chose de presque dramatique, et donc voilà, ça joue beaucoup sur ces trois frontières en fait.
Avec des points de rencontre, par exemple on a un son fendu de clarinette, c'est-à-dire des sons fendus, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre un peu dans toutes les esthétiques maintenant.
Ben oui.
C'est-à-dire entre le jazz, les musiques impro, la musique électroacoustique.
C'est exactement ça. Et dans cette pièce, il y a aussi un élément que je trouve très intéressant, notamment par rapport à la question du bruit, c'est-à-dire que les instruments peuvent être extrêmement bruitistes et très agressifs. Et au contraire, les nappes harmoniques de l'électronique derrière, elles sont généralement très douces et très consonantes. Il y a presque une inversion des rôles comme ça, qui permet justement de montrer que pour un compositeur aujourd'hui, les influences se mêlent jusqu'à totalement être détruites en fait. Il n'y a plus d'influence, c'est des musiques multiples qui fusionnent au sein d'un même compositeur, on va dire ça comme ça.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir d'un seul bruit, on peut très bien faire de la musique bruitiste, mais aussi une musique harmonique.
Ah oui, totalement. Totalement. De toute façon, il suffirait d'allumer la télé, de regarder les pubs. Je veux dire, les bandes son des pubs et des sound designers ne font que ça.
C'est un peu aussi votre démarche en pédagogie, c'est de partir d'un seul son ou bien d'une seule texture, par exemple la voix parlée.
C'est ça.
Là, vous êtes venu avec un exemple qui s'appelle Minds at War, où il n'y a que de la voix parlée qui est traitée.
C'est ça. L'idée, c'était de travailler sur un poème de Owen qui traite des gaz pendant la Première Guerre mondiale. C'est un projet qu'on a monté en partenariat avec le musée de la Grande Guerre de Meaux. Et pour les élèves, l'idée, c'était de ne travailler que sur ce poème. Donc que sur de la matière vocale, entièrement enregistrée par les élèves, entièrement interprétée par les élèves et entièrement traitée par les élèves.
Till on the haunting flares, we turn our backs and bend our knees. Oh, not we curse we turn our backs back and towards righteous impress begin to charge men marchestly but leaned. Fatigue, death even to the hoods tired, outstrip five nines that drop behind.
Ils sont bien ces jeunes.
Pour toutes les années à venir, je pense qu'on a effectivement de très bons musiciens qui vont apparaître parce qu'ils ont vraiment cette culture du média et cette culture du son. Une fois qu'ils ont vraiment fait la distinction par rapport à leur environnement, ils ont vraiment cette culture-là. Et cette culture du micro et cette culture
et du jeu. Parce qu'ils jouent vraiment avec le mot.
Ah oui, et puis ils n'hésitent pas. Ils hésitent d'autant moins que c'est leur propre voix. C'est quand même très, très difficile, pour un professionnel. Et là, ils y vont, Ils y vont vraiment. Et on obtient vraiment, comme c'est le cas ici, des résultats qui sont très, très, très pertinents. Pour la petite anecdote, au Musée de Meaux, on a beaucoup hésité. Puis, du compte fait, on a évité de dire au public que c'était un projet pédagogique. Et ça a été très, très bien reçu par les visiteurs, qui se doutaient absolument pas que c'était fait par des lycéens, et encore moins sur un petit projet comme ça, sur 2 jours et demi. Donc, vraiment, c'était une très belle réussite. Et les élèves étaient très fiers d'eux. Et ils avaient raison.
C'est une particularité quand même à la MU, c'est que vous diffusez les travaux vraiment en public en général.
Bah oui, parce que de toute façon, on sait bien que la notion de restitution est extrêmement importante, et notamment très importante d'un point de vue pédagogique. C'est-à-dire que jouer un peu avec un ordinateur, tout le monde peut le faire, mais jouer avec un ordinateur en sachant qu'il va y avoir un vrai public derrière avec des enjeux qui sont tout autres que quand on est dans sa chambre, c'est très différent. Et quand en plus, comme au Musée de Meaux, on peut avoir une dédiffusion, parce qu'en plus ça a été diffusé plusieurs fois, il y a un enjeu pour les élèves qui permettent justement d'obtenir un résultat comme ça, sachant que c'est eux qui font tout. Moi je suis là pour encadrer, mais voilà, c'est eux les compositeurs.
Sébastien Béranger, parmi vos actions avec la Muse, vous lancez des appels aussi, des appels à composer, ouverts à tout le monde.
Pas ouverts totalement à tout le monde. En fait, on a lancé il y a quelques années un concours qui s'appelle Radio Ratorio, en hommage à la pièce de John Cage.
Roa Ratorio, c'est voilà, ça. J'ai réussi à le dire.
Et l'idée, c'était de proposer aux établissements scolaires des trois académies franciliennes, donc Paris, Créteil, Versailles, de proposer des projets. Et si ces projets sont sélectionnés par un jury composé d'animateurs de Radio France, de l'Ariane, puis des trois académies, d'être accompagnés pendant un an par un compositeur pour réaliser une pièce radiophonique. La Muse en circuit est une institution qui a été créée il y a quelques années, maintenant en 1982, par Luc Ferrari, et forcément cette culture de l'art radiophonique, du Hörspiel à l'allemande, est très très présente encore dans la structure. Et donc voilà, on voulait aussi amener les élèves à avoir cette culture de la radio, cette culture de la narration, qui est un peu différente des objets électroacoustiques plus communs. C'est une très belle occasion de le faire.
C'est un seul. Eh voilà, vous l'avez foutu en panne. Ah ben bravo. Elle a disjoncté la pauvre bête. Alors là, ça elle est bonne celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, on utilise trop la machine.
Un tout petit extrait, je crois.
Oui, la pièce dure 10 minutes.
De Radio Ratorio, donc un concours d'art radiophonique que vous lancez avec la Muse en circuit. Sébastien Béranger, on peut écouter les différentes réalisations sur un SoundCloud qui est dédié, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, il y a trois pièces choisies tous les deux ans. Donc ça, c'était la toute première édition. Il y en a une deuxième, et là, on lance justement l'appel à tous les enseignants des académies franciliennes à nous proposer leurs projets pour être accompagnés l'année prochaine par un compositeur dans l'idée de réaliser une pièce radiophonique d'une dizaine de minutes. Et effectivement, tous les projets peuvent être facilement suivis sur le SoundCloud, qui s'appelle 24H du son, pour 24 heures du son. Généralement, les projets sont accompagnés par Marco Marini, qui est compositeur de musique électroacoustique, et par Monica Fantini, qui est moins compositrice que metteuse en ondes dans cette belle maison, et avec une vraie culture du paysage sonore. Donc après, on se partage les projets aussi par rapport aux questions esthétiques soulevées par les équipes pédagogiques.
La Muse en circuit, c'est au centre de la Muse, vous avez vraiment tout ce dispositif pédagogique, mais la Muse, c'est aussi un festival, c'est le festival Extension, où vous mettez en communication différents publics. Est-ce que dans ce cadre de Extension, vous faites des diffusions aussi des travaux pédagogiques que vous avez fait dans l'année?
Ça peut arriver. En fait, on a la chance à la Muse en circuit de pouvoir proposer des projets pédagogiques qui sont à peu près autonomes. Maintenant, forcément, la Muse en circuit est un centre de création, on accueille beaucoup d'artistes, on est vraiment là pour faire émerger ces artistes, émerger les projets, et donc il y a tout un ensemble d'opérations de médiation, d'action culturelle qui accompagne les projets artistiques que l'on diffuse. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir effectivement des diffusions pédagogiques assez régulières, des rencontres avec des artistes ou même des créations en levée de rideau avant concert. Ça peut arriver.
On n'y va ni vers le haut ni vers le bas, on met tout le monde au même pied d'égalité, tout le monde est un écoutant et un compositeur avec les moyens qu'il a.
Bien sûr, c'est exactement ça. Et puis l'idée, c'est vraiment de comprendre la démarche des artistes. Je veux dire, on n'est pas dans une bulle d'ivoire, donc on envoie tous les artistes au front, on leur fait rencontrer les enfants, les stagiaires et ainsi de suite pour justement bah, propager cette bonne parole et puis propager ces techniques et faire comprendre ce qu'est la création aujourd'hui.
Sébastien Béranger, pour terminer notre interview, vous êtes venu avec une autre pièce de votre répertoire en tant que compositeur maintenant. Mm-hmm. Ça s'appelle Versus. Ouais. Et là, c'est un vrai combat.
Là, c'est un vrai combat. Là, c'est un vrai combat entre l'ensemble instrumental et la musique électronique. C'est un vrai combat entre les différents groupes instrumentaux qui composent cet ensemble, qui est dirigé par Pierre Roulier avec l'ensemble de The 2M. Et puis, c'est un vrai combat de toutes les influences dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on a vraiment les sons de modulation, les sons de machine, qui module avec les sons instrumentaux et des approches beaucoup plus classiques.
Versus de Sébastien Béranger, enregistré en 2011. On a écouté deux de vos pièces en tant que compositeur. Ça, on peut les consulter sur votre site internet.
Oui, sébastienberanger.com.
Voilà. Mais on peut aussi écouter les archives pédagogiques de la Muse. De
oui, il y a pas mal d'archives qui sont sur un SoundCloud qui s'appelle 24H du son. Ça se trouve très facilement et on va retrouver notamment les extraits qu'on a entendus aujourd'hui et plein d'autres.
Le festival Extension de la Muse en circuit du 20 avril au 11 mai sera vraiment une extension de cette émission pour comprendre les liens entre bruit, son, matière.
J'espère.
Parce que là, on y voit des musiciens de musique improvisée, de musique écrite.
Oui, les approches sont très très larges.
Voilà, alors tout ça c'est sur le site internet de la Muse en circuit, alamuse.com, c'est bien ça?
C'est ça.
Et je conseille évidemment aux auditeurs d'aller voir votre soirée qui vous est dédiée, soirée monographique Sébastien Béranger avec uniquement de vos pièces, qui sera donnée à Ivry-sur-Seine le 3 mai à 18h.
C'est ça.
Merci beaucoup Sébastien.
Merci à vous.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
France Musique.
Moi, j'ai jamais conçu la musique comme ni violente, ni brutale, parce que quand même, c'est ce qu'on cherche, en tout cas, c'est ce que moi, j'ai cherché pendant des années, c'est de trouver une expression et de pouvoir distinguer des strates aussi bien que possible. Évidemment, à l'époque, quand je travaillais les pièces telles que Kraft ou des pièces avant, j'habitais à Berlin et là, il y avait cette côté musique alternative qui était quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Pas nécessairement le message, si jamais il y a un message avec toute cette musique qui existait là à l'époque, mais la fascination pour une sonorité qui était ni tonale, ni reliée à la musique populaire style américaine, anglo-pop.
Zoom sur Kraft de Magnus Lindberg. Gifle sonore. Lorsqu'en 1985, le jeune compositeur finlandais Magnus Lindberg fait jouer Kraft, il n'a peut-être pas alors conscience de l'impact que cette œuvre aura sur les générations qui suivront. S'ouvrant dans une déflagration de sifflets, coups, magma sonore et bruit métallique, Kraft se déploie entre fatras et chaos, dentelles de lignes entrecroisées et éclats violents de tout l'orchestre. Kraft, en allemand, veut dire puissance. Et Kraft est une œuvre puissante. Au départ pensé pour l'ensemble Toimi, réunissant Lindberg et Zappeka Salonen et d'autres musiciens finlandais de la même génération, Kraft est une sorte de concerto grosso pour piano, violoncelle, clarinette et deux percussionnistes en dialogue avec un orchestre symphonique déployé dans l'espace. Magnus Lindberg, au sein de cette lave de sons, a calculé par ordinateur les trajectoires précises des sons dans l'espace de la salle, jusqu'à demander à certains musiciens et aux chefs d'orchestre de se déplacer.
L'espace, même comme métaphore pour la musique, est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Et Monsieur Dutilleux en parle toujours. Il m'a vraiment beaucoup donné dans ce sens-là. Comment avec l'orchestre créer l'image, l'illusion d'un son qui ou remplit l'espace avec des objets, avec les passages de musicales comme ça, qui auraient une sorte de trois-dimensionnalité.
Créer ces textures de cris, de souffle, acides ou feutrés, chaque soliste joue, en plus de son instrument, d'une sélection d'objets récupérés à chaque fois chez un ferrailleur, pour permettre à l'œuvre de sonner avec les matériaux de l'endroit où elle est jouée. Lorsqu'elle fut jouée dans une usine Volkswagen, Lindberg choisit alors exclusivement des matériaux de la marque allemande, qu'il distribue aux musiciens. Le compositeur nous dit: pourquoi faut-il toujours que nous jouions sur les mêmes jolis instruments? Pourquoi ne pas nous affranchir des limites que nous nous imposons et choisir à l'occasion des morceaux de métal, des produits industriels, des pièces de carrosserie? Kraft était pour moi l'occasion de me débarrasser, pour un moment, de la lourdeur du grand orchestre symphonique et d'ouvrir de nouveaux espaces, de sortir la musique classique de son milieu parfois trop élitiste. Au moment de la conception de Kraft, Lindberg voyage entre Paris, Helsinki et Berlin, où il découvre la pertinence de la scène électronique underground, se jouant du bruit pour déplacer notre écoute dans la matière et la sursaturation d'événements. J'avais reçu, rapporte Lindberg, une commande du festival de Helsinki pour écrire un concerto pour piano pour l'été 1985. Mais sous l'influence de groupes comme Einstürzen de Neubauten, le projet a pris un tout autre caractère. Et il est devenu un produit de la grande ville.
Good. ici.
Avec Kraft, on touche à une esthétique de l'extrême, assumée alors par le jeune compositeur. Seul l'extrême est intéressant, nous dit Magnus Lindberg. Un mode d'expression original ne peut être envisagé qu'à la marge. L'hyper-complexe combiné au primitif. Depuis, Lindberg a vieilli. Et cette délicate brutalité bruitée de Kraft s'est estompée peu à peu. Mais l'œuvre est restée emblématique d'une génération de compositeurs nés dans les conservatoires, mais qui se baladent sur la frontière entre Yanis Xenakis et Einstürzen de Neubauten, entre le calcul et l'instinct, entre le bruit et la matière. Fin de notre quatrième épisode du Cri du Patchwork sur le bruit. Merci à Perrine Mingui à la réalisation de cette émission. Nous avions aujourd'hui à la technique Cédric Châtelus. Merci à Forrest Anandel, toujours à l'affût du moindre son. N'oubliez pas d'aller sur le site internet de l'émission pour augmenter votre écoute, car vous pouvez podcaster l'émission dans quelques minutes. La semaine prochaine, nous recevrons David Sanson, journaliste et musicien qui viendra nous conter l'inclusion du bruit et de la saturation dans les musiques amplifiées, dites actuelles, même si elles ne le sont plus. Un parcours de Jimi Hendrix à Sonic Youth pour y voir l'impact du bruit dans toutes les couches de la création. Chers écoutants.
Si je fais 1, tagaram, 1, parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, parap, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein, bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est 17h, l'heure de passer la main à Arnaud Merlin et son All That Jazz. C'est à vous Arnaud.